France Inter, le 7-9.
Et c'est la revue 13, Claude Askolovitch, on parle de médicaments.
Les médicaments qui sont une espérance, on en parlait sans doute, ce jour où le Parisien fait sa une sur le traitement anti-Covid que lance Pfizer. Pfizer qui investit chez nous en France pour le produire, ce Paxlovid, oui, et concevoir plus tard d'autres panacées. Son directeur général, Albert Bourla, raconte tout cela au Figaro, si vous n'avez pas écouté la radio. Les médicaments qui changent la face du monde, et même bientôt la face ingrate des adolescents, puisque c'est dans Presse Océan. Un chercheur nantais, Jean-Baptiste Bérard, a découvert que la micro-algue Skeletonema marinol, insérée à une crème et exposée à la lumière, éradique l'acné. Même la lumière de l'écran du téléphone portable suffit à libérer ses propriétés curatives. Au départ, le chercheur cherchait une algue pour lutter contre le cancer, mais l'acné, c'est bien aussi. Mais c'est un autre médicament qui va nous fasciner dans l'excellente revue 21, car il raconte à la fois le génie des chercheurs et l'appétit pour l'argent qui les environne. Ce médicament s'appelle le Zolgensma. C'est le médicament le plus cher du monde. Sa dose, à 2 millions de dollars, empêche de mourir des bébés atteints d'amyotropie spinale, une maladie génétique qui mange les muscles. 21 raconte en parallèle la saga du Zolgensma et l'histoire de Louis, petit garçon né en Australie d'une maman française qui avait entouré son berceau d'ex-voto, d'images pieuses et d'amulettes avant de découvrir qu'un nouveau traitement était testé en Amérique. En octobre 2015, Louis fut le 11e enfant dans le monde à être traité au Zolgensma, encore au stade de l'expérience. Le médicament était né. De la découverte d'une chercheuse française du Généthon, le laboratoire lié à notre Téléthon, Martine Barkatz, qui avait réussi à introduire un gène dans des neurones moteurs pour enrayer la maladie, et qui fut, cette chercheuse, sans doute plagiée par un chercheur américain. Son idée est alors devenue là-bas une start-up, puis elle a fait péter la balance. En 2018, le groupe suisse Novartis a acheté le Zolgensma pour plus de 8 milliards de dollars, et pour apurer le passé, a consenti des miettes au Téléthon sur les bénéfices à venir. Si notre labo français avait conservé la maîtrise de l'idée, le médicament ne serait pas devenu une spéculation. Mais voilà. Il appartient désormais à un groupe de science, de profit, de marketing et de communication qui produit le Zolgensma dans une usine où sur les écrans, sur des murs, défilent les images d'enfants sauvés et les paroles de parents délivrés. Novartis fait valoir au pays qu'il démarche qu'il vaut mieux rembourser une dose de 2 millions de dollars que dépenser des millions en suivi médical. Et puis, y pense-t-on, les parents des enfants malades, avec leurs soucis, ils ne sont pas productifs. Novartis invite aussi par tirage au sort une loterie pour la vie des enfants malades venus de pays où le médicament n'est pas encore reconnu à se faire soigner gratuitement. En Inde, une petite fille a pu se faire payer sa dose grâce à une gigantesque campagne de levée de fonds. Quant au petit Louis, il est en vie. Il aime Sonic et il aime Super Mario, mais il est lourdement handicapé. Il ne marche pas encore. Il va régulièrement en soins intensifs pour des problèmes respiratoires. Sa maman prie pour qu'il soit plus tard un petit homme normal. Alors, dit-elle, j'en ferai un homme bon qui aidera les autres.
On parle aussi de ceux qui sauvent les autres.
Des militants d'abord, que nous dit Libération, qui ont mis en place Alarm Phone, une ligne téléphonique que les migrants en mer peuvent appeler pour donner les coordonnées GPS de leur embarcation à la dérive. Cela fait 7 ans qu'Alarm Phone existe et que ses activistes à Marseille, Tanger, Tunis, Palerme ou Hambourg prennent des veilles et accompagnent des sauvetages. 7 ans de traversée, de noyade, dont vous lirez aussi les statistiques dans Libération. Les risques que prennent les migrants, la violence qu'exercent contre eux des gardes-côtes irait en augmentant. Dans le Dauphiné, on nous raconte d'autres migrants, mais ceux-là afghans, et leur histoire est joyeuse et baroque, comme leur sauveteur, Victor Davier, qui vit à Annecy, qui a été champion de snowboard, puis s'est tourné vers la vidéo. L'année dernière, il avait rencontré l'équipe d'Afghanistan de snowboard, une bande de joyeux rêveurs qui s'entraînaient à la glisse sur le sable. Quand les talibans ont pris le pays, ils ont menacé de mort les rêveurs, alors Victor Davier a sorti ses copains du pays, c'est presque du Belmondo, lisez. Dans les Alsaces et les DNA, vous allez lire comment des adultes choqués eux-mêmes, miraculés, entouraient un petit garçon terrifié en se réchauffant à la carcasse en flammes d'un avion tombé. Le 20 janvier 1992, l'Airbus A320 Lyon-Strasbourg s'écrasait au Mont-Saint-Odile, laissant 8 survivants, dont Romain, alors 8 ans, qui voyageait seul et qui raconte pour la première fois adulte comment il s'en est sorti de ce drame. Il a perdu tous ses souvenirs antérieurs à l'accident, mais il s'en est fabriqué d'autres. Il est globe-trotteur et passionné de glisse. Il apprivoise et le monde et la montagne.
Et on parle enfin de Néandertal.
Notre lointain cousin préhistorique qui est la passion de l'anthropologue Ludovic Slimak, qui, sur le site du Monde, raconte, et c'est passionnant, comment il s'astreint dans des grottes à rentrer en empathie avec l'espèce disparue, avec ces individus qui sculptaient des objets uniques, tous différents, comme si chaque sculpteur néandertalien était en dialectique avec la matière, avec le silex qu'il taillait, alors que les objets que nous, sapiens, fabriquions, étaient normés. Sapiens s'imposait à la nature quand Néandertal s'y coulait. Simiac, alors, se noie dans les objets, et puis avec le Monde, il s'interroge sur les disparus et nous. Il est quand même troublant de voir que les populations qui avaient la plus grande créativité, la plus grande liberté d'être, ont disparu, tandis que celles qui étaient les plus normées, les plus standardisées et forcément les plus efficaces se sont imposées. C'est presque une histoire de vaccin. Dans La Croix, vous allez lire comment en Chine, des parents se ruinent en cours particuliers et rustent avec l'État pour que leurs enfants tiennent leur place dans le Monde. Dans La Dépêche, vous lirez des sportifs de haut niveau qui ont survécu à de graves maladies. Le rugbyman Gabernet qui jouait et perdu une finale du championnat de France après avoir appris son cancer des testicules. Anaïs Kemener, championne de France du marathon 6 mois après son opération d'un cancer du sein. Et leurs histoires rendent les malheurs de M. Djokovic absolument dispensables.
Merci Claude pour cette revue de presse.
France Inter.